Et cette fois-ci, c'est la bonne. Oui, il suffisait que je parle des embouteillages pour faire venir le professeur. Donc bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous Pôle Info Santé. Vous connaissez le rendez-vous pour la plupart. Il y a des petits nouveaux ? Des gens qui viennent pour la première fois ? Qui ? Ah, on a une petite nouvelle. Bonsoir, bienvenue. Le Pôle Info Santé, en fait, c'est le fruit d'un partenariat, vous le savez, entre le CHU et l'Espace Mendès France. Alors, le CHU, l'une de ses missions, c'est l'éducation à la santé, et puis l'Espace Mendès France, qui est le centre de culture scientifique. Et l'objectif de ce rendez-vous, c'est de vous permettre d'avoir des infos sur une thématique et puis d'échanger avec des professionnels de la santé qui sont là. Je vais vous présenter dans un instant nos intervenants. On va aujourd'hui évoquer la prévention du diabète, tester vos connaissances alimentaires. D'ailleurs, vous avez pu voir dans le petit document qu'on vous a remis, il y a un test, un quiz, comme on dit. Donc on va jouer un petit peu ensemble tout à l'heure. Donc je sais qu'il y en a certaines qui ont commencé déjà à remplir les questions. On aura nos intervenants qui vont vous apporter des éléments de réponse. Donc surtout pendant leur petite présentation à chacun, écoutez bien et vous allez peut-être pouvoir trouver des réponses et être le grand gagnant du grand quiz du jour. Oh. Vous avez gagné des stylos offerts par le CHU. Voilà. Ah, il voulait, donc tout le monde a gagné, bravo. À la fin des exposés, bien sûr, vous pourrez poser vos questions comme d'habitude. Pour les plus timides, il y a des petites feuilles à l'intérieur des documents. Vous pouvez écrire vos questions directement. Vous me les donnez quand moi je passe et puis je vous poserai la question. Essayez d'écrire le plus gros possible et lisiblement, s'il vous plaît. Je vieillis aussi un petit peu comme tout le monde. Vous avez donc en plus des documents d'information entre vos mains pour avoir un complément d'information. Vous avez aussi des fiches d'évaluation que je vous demanderai de remplir. Elles sont très importantes, vous le savez, pour ceux qui viennent régulièrement. Ça nous permet de changer. On est en train de voir pour améliorer, changer, apporter des petites nouveautés à ce rendez-vous. Donc c'est grâce à vos commentaires. Donc continuez à le faire. Je vais vous demander d'éteindre vos portables, s'il vous plaît, de les mettre en mode avion. Cette conférence est enregistrée. C'est pour ça que je vous demanderai de parler dans un micro quand vous poserez des questions. Je viendrai vers vous et c'est moi qui tiendrai le micro. Nos intervenants parleront aussi dans un micro. Vous allez pouvoir comme ça réécouter toutes les interventions de ce soir sur le site du CHU et de l'Espace Mendès France. Alors, manger du sucre rend-il diabétique ? Le corps a-t-il besoin de glucides pour son énergie ? Le pain fait-il grossir ? Voilà, quelques questions. Hein. Les types, les risques, les traitements, le diabète, c'est quoi ? On va répondre, ils vont répondre, nos intervenants, bien sûr, à toutes ces questions. Bienvenue à cette nouvelle conférence Pôle Info Santé, ici à l'Espace Mendès France. Je voudrais aussi en profiter pour saluer l'équipe technique, l'organisation, la communication pour ce rendez-vous. Je vais vous présenter les invités, les intervenants, le professeur Richard Maréchaux. Bonsoir. Vous êtes chef du service de médecine interne, endocrinologie et maladie métabolique au CHU de Poitiers. Il y a aussi le docteur Émilie Vincent Tassin. Bonsoir. Bonsoir. Endocrinologue libéral à Poitiers. Le docteur Emmanuel Delobouge, médecin généraliste à Couévérac. Bonsoir. Et Aurélie Brimbilla, diététicienne au CHU de Poitiers. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse la parole, professeur Maréchaux. Je vous souhaite une bonne soirée.
Alors bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, en introduction, avant de parler exactement de ce dont on doit parler, je voulais vous dire que, initialement, les organisateurs de Pôle Info Santé nous ont sollicité, et je les en remercie, pour faire une soirée Pôle Info Santé intitulée « L'alimentation ». Bon. Après réflexion autour de cette table, nous avons préféré restreindre la question à l'alimentation du diabétique, ce qui peut poser problème parce qu'on a déjà parlé du diabète en 2013, ici même. Mais parce que quand on parle de l'alimentation, vous devez bien vous imaginer qu'on parle dans tous les sens. L'alimentation, c'est un vaste sujet. Personne autour de cette table, sauf Aurélie Brimbilla, en tant que diététicienne, si vous voulez, n'a une expertise de l'alimentation, de la nutrition suffisamment panoramique pour très honnêtement, animer un débat global sur l'alimentation. D'accord ? Personne n'est, nutritionniste pur et dur, comme certains nutritionnistes qui interviennent dans les médias. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons refocalisé le sujet sur quelque chose qui correspond mieux à notre expertise quotidienne. Alors, comment est-ce qu'on pouvait m'aider à mettre en route le système ? Ah. Voilà, on va passer vite sur cette première diapositive parce que vous connaissez déjà le titre et puis seul par erreur mon nom y figure alors que nous sommes quatre autour de cette table pour animer cette soirée. Donc l'alimentation du diabétique, l'alimentation surtout pour prévenir le diabète puisque c'est surtout ça le sujet de la Réunion. Donc le diabète, c'est une maladie chronique dont la prévalence en France et dans le monde est croissante et qui expose à des tas de complications rénales, oculaires, cardiovasculaires. Et donc c'est un problème de santé publique. Pour ceux qui ne le savent pas, le diabète est une maladie qui est définie par un taux de sucre augmenté dans le sang, au-dessus de 1,26 g, confirmé par un deuxième dosage effectué dans un laboratoire et non seulement au niveau de du bout du doigt. Et ça, c'est pour poser la statistique française. Actuellement, il y a 2,5 millions de diabétiques connus en France. Il y en avait 2 millions en 2000, il y en aura 3 millions dans moins de 10 ans. Donc c'est une prévalence accrue. Et à côté des diabétiques qui sont présentés ici en bleu, connus, il y en a un bon nombre, près d'un million, dont le diagnostic n'est pas encore fait parce que le taux de sucre n'a pas été encore dosé. Et puis il y a un nombre considérable de personnes qui sont exposées à devenir diabétiques et qui donc justifieraient une prévention de la survenue ultérieure d'un diabète. Alors quand on parle de santé publique, de prévalence, on parle surtout du diabète de type 2, c'est-à-dire la plupart des diabétiques, 85 à 90% d'entre eux, qui sont affectés d'une maladie qui survient la plupart du temps après l'âge de 40 ans, dans un contexte d'hérédité. D'autres personnes dans la famille sont affectées par ce type de diabète, de surpoids, de sédentarité. Donc c'est le terrain où on va recruter, entre guillemets, les personnes susceptibles de devenir diabétiques. Alors un des éléments indicateurs du risque de diabète, mais ce n'est pas le seul, c'est non seulement le poids, mais c'est le tour de taille. Et en France, le tour de taille, enfin en Europe plus exactement, le tour de taille qui expose le plus à devenir diabétique, surtout quand on a un contexte familial, eh bien c'est lorsqu'on a un tour de taille qui est au-dessus de 80 cm chez une femme et au-dessus de 94 cm chez l'homme. Il y a des critères un petit peu moins stricts qui sont marqués au-dessus, mais qui sont plutôt applicables par dans une population américaine. Voilà. Alors, c'est un indicateur de risque de diabète. Alors, 4% des Français sont diabétiques de type 2, mais la prévalence de cette maladie est extrêmement différente dans les tranches d'âge. Et dès l'instant où on dépasse la cinquantaine, on voit ici que la prévalence du diabète est de l'ordre de 10, 15 à 20% chez les hommes et les femmes. Donc il est bien certain que la prévention du diabète doit surtout intervenir à partir de la trentaine, de la quarantaine, chez des personnes qui sont exposées à devenir diabétiques. Et un des facteurs, donc, c'est de mesurer son tour de taille pour repérer ça. Alors, vous avez dans votre brochure un petit document qui est représenté brièvement ici, qui vous permet d'évaluer votre risque de devenir diabétique à partir de 8 questions. Et ce sont des questions extrêmement simples. Quel âge avez-vous ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont du diabète dans votre famille ? Selon que ce sont des apparentés au premier degré, père, mère, frère ou bien un petit peu plus éloigné. Est-ce que vous mangez régulièrement des fruits et légumes tous les jours ? Est-ce que vous avez un peu d'activité physique ? Alors vous obtenez un score que vous allez pouvoir calculer par vous-même. Et ce score vous indique s'il est au-dessous toutes sept que vous avez un très faible risque de devenir diabétique, donc vous n'êtes pas très concerné par le problème de la prévention. Et au-delà, inversement, tout à fait à l'extrême, si vous êtes au-delà de 20, vous avez un risque très élevé de devenir diabétique. Alors on reviendra sur ça dans la soirée. L'alimentation pour éviter de devenir diabétique, c'est finalement l'alimentation qu'on doit avoir à partir du moment où on est diabétique, c'est-à-dire manger régulièrement, éviter de grignoter entre les repas, surtout faire la chasse aux graisses. Les aliments glucidiques ne sont pas interdits aux diabétiques, mais il faut les choisir. Il faut surtout choisir ceux qui font très peu monter la glycémie après les repas. On y reviendra. Il faut manger des aliments riches en fibres, éviter les boissons sucrées et boire de l'alcool de façon modérée. Un diabétique, la prévention du diabète, la prise en charge du diabète répond tout à fait aux repères de consommation des objectifs du programme national nutrition santé, avec plusieurs fruits et légumes tous les jours, à chaque repas du pain, des céréales qui vous apportent en particulier les glucides à absorption, à assimilation lente, les laitages plusieurs fois par jour, pas trop d'excès sur les viandes et les volailles et les poissons, une à deux fois par jour, les matières grasses sans limiter la consommation, donc ça c'est un des points les plus importants, limiter au maximum la consommation de produits sucrés, l'eau à volonté et le vin modérément, et l'exercice physique. Alors ces repères de consommation sont illustrés ici par ce qu'on appelle le voilier alimentaire, où la grand voile est représentée par les féculents. Les phoques avant et arrière représentent les légumes verts et les fruits. Et puis la coque, c'est la viande, c'est les produits laitiers. La quille, c'est les graisses d'origine animale, d'origine végétale. Et puis à l'arrière, ici, cette toute petite voile, c'est les sucreries. Donc toute petite voile. Voilà. Et puis donc l'exercice physique. Et donc c'est avant tout sur ces bases-là que repose, en termes de santé publique, la prévention de devenir diabétique si on est prédisposé par un certain nombre de critères à le devenir. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à mes collègues. Aurélie.
Bonsoir. Donc là, je vous propose de répondre, enfin que vous répondiez en fait dans un premier temps au quiz. Donc je vais énumérer les questions et on donnera les réponses avec les explications à la fin, une fois que mes collaborateurs, enfin, confrères, etc., vous auront expliqué un petit peu certains aspects de la survenue du diabète de type 2. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde a un stylo? Oui. Alors, manger sucré rend diabétique. On ne peut pas prévenir.
Voilà, donc c'est vous qui travaillez là maintenant, hein, pour l'instant. Donc, manger sucré rend diabétique. Donc, vous avez. Ils ont le dossier pour cocher. Bon, on les fait voter à.
Tout le monde est prêt? Donc, question numéro 1, manger sucré rend diabétique, vrai ou faux? Je pense que là, vous avez eu le temps de répondre. Gardez vos réponses peut-être pour vous et puis on en discute à la fin. Merci. On ne peut pas prévenir l'apparition d'un diabète. Donc, à chaque fois, on vous laisse un petit temps de réflexion. Les glucides sont des sucres. Vrai ou faux? Le corps a besoin de glucides pour son énergie. Les glucides fournissent plus de calories que les lipides? Cinquième question. Sixième question, il y a autant de glucides dans 100 g de pain blanc que dans 100 g de pain complet. Septième question, le pain fait grossir. Huitième question, les pommes sont les fruits les plus pauvres en glucides. Neuvième question, les jus de fruits sans sucre ajouté n'apportent pas de glucides. Dixième question, les légumes verts apportent des glucides. Onzième question, les petits pois sont des légumes verts. Donc là, on arrive à mi-parcours. Douzième question, le lait contient naturellement des glucides. Treizième question, le sucre roux est meilleur que le sucre blanc. Quatorzième question, le fructose est aussi calorique que le saccharose. Quinzième question, dans un litre de soda, il y a l'équivalent de 24 morceaux de sucre. Seizième question, les soda light contiennent des glucides. Dix-septième question, les bonbons et chewing-gum sans sucre n'apportent pas de glucides. Dix-huitième question, affirmation, l'huile d'olive est l'huile la moins grasse. Dix-neuvième affirmation, la margarine au tournesol est moins grasse que le beurre. Vingtième affirmation, les fromages ne contiennent pas de glucides, vrai ou faux? Vingt-et-unième affirmation, le vin rouge contient des glucides. Et enfin, dernière affirmation, une banane équivaut à un steak. Donc vous aurez les réponses écrites à la fin. On vous distribuera les réponses écrites à la fin. Donc pas d'inquiétude, vous pouvez prendre des notes également sur...
On reviendra sur chaque question à la fin et on échangera question par question.
Tout à fait.
D'accord.
Donc moi, je vais vous parler du diabète en médecine générale et de la prévention du diabète, à savoir que le diabète de type 2 est très, très fréquemment dépisté lors d'une consultation de médecine générale et essentiellement, souvent, lors de prises de sang qui sont complètement faites pour autre chose, dans un dépistage systématique, pour des assurances, dans le cadre d'un certificat de sport, vraiment pas forcément pour aller chercher un diabète. Et ceci étant dû aussi que on peut être diabétique sans le savoir pendant parfois de très longues périodes et ne pas avoir forcément besoin d'avoir la nécessité d'avoir une prise de sang face à l'évolution lente que peut avoir le diabète de type 2. Donc, dans les deux idées reçues principales que moi je rencontre au quotidien, il y a deux grandes affirmations plutôt de la part des patients. La première, c'est mes patients sont diabétiques. Alors même si je fais attention, je serai diabétique. Et la deuxième, c'est je suis en surpoids, d'accord, mais bon, j'ai fait ma prise de sang, elle est très bien, je ne serai jamais diabétique. Donc dans les deux cas, c'est pas forcément vrai. Comme le professeur Maréchaux l'a expliqué, il y a une part de prédisposition génétique et dans, une part d'hérédité dans le fait de faire du diabète, d'être un jour diabétique, ce qui crée un milieu propice et qui, associé à des consommations que nous allons détailler, fait qu'on peut devenir diabétique. Et donc que le mode de vie, même si on est prédisposé pour être diabétique, est primordial pour essayer de prévenir la pathologie ou d'essayer de faire en sorte qu'elle arrive le plus tardivement possible. Alors, le rôle du médecin généraliste, eh bien, c'est comme je vous ai expliqué, c'est un suivi régulier. On suit les patients régulièrement pour plein de motifs différents. Et je pense qu'il est très important que les patients ne banalisent pas la consultation, même pour un certificat de pétanque en début d'année. C'est important que le médecin examine le patient. C'est important qu'on se rencontre, parce que la pétanque, c'est vrai que c'est pas forcément un sport très éprouvant physiquement, mais c'est l'occasion de rencontrer son médecin et puis de faire le point et peut-être à ce moment-là de faire une prise de sang pour justement dépister la maladie qu'est le diabète. Ensuite, bon, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des prédispositions en fonction de son activité, en fonction de sa famille, en fonction des antécédents qu'on a pu avoir. Par exemple, les femmes qui ont eu un enfant de plus de 4 kilos, bah, on sait qu'elles ont plus de risques que les autres d'avoir un jour un diabète. Et même si elles sont actives et en forme, c'est vrai qu'elles doivent être suivies régulièrement de manière à dépister le moment venu cette maladie. Ensuite, le rôle du patient. Ben, le rôle du patient, il est essentiel dans la prévention au quotidien. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il est important de manger équilibré, d'avoir une activité sportive. Alors, peut-être pas forcément le sport en compétition, c'est pas nécessaire, mais de la marche régulièrement, 2, 3, 4 fois par semaine, marcher une demi-heure, c'est pas grand-chose. Je crois qu'on peut tous arriver à essayer de faire ça au moins 2, 3 fois par semaine, une demi-heure. Et ça peut aider à prévenir la maladie du diabète. Et puis bon, bien sûr, après, faire attention à ce qu'on mange en quantité, éviter le surpoids, c'est indispensable. Donc ma conclusion par rapport à tout ça, c'est que la santé du patient, c'est la propriété du patient, c'est le patient qui fait sa santé. Que certes, le médecin est là pour aider, que les médicaments peuvent aider dans la prise en charge, mais ce ne sont que des aides, surtout pour le diabète. Et qu'on sait que le principal, c'est absolument l'hygiène alimentaire et l'activité physique. Voilà.
Merci beaucoup, Emmanuel.
J'espère ne pas perdre ma voix. Donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Enfin, quels sont les aliments autorisés, interdits, parce qu'on entend beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des aliments contre-indiqués? Est-ce que tout m'est autorisé? Je vais peut-être passer sur la première diapo, puisqu'on vient de déjà vous en parler. Le diabète, donc on vient de vous le dire, c'est l'élévation anormale du taux de sucre dans le sang, les facteurs modifiables et non modifiables. Donc, comme disait Emmanuel tout à l'heure, oui, il y a une prédisposition, mais il y a des choses que vous pouvez modifier, comme l'obésité et la sédentarité. Donc, quelles recommandations? Avant de vous parler de recommandations, il faut toujours un niveau de preuve. Oui. Un niveau de preuve, donc c'est-à-dire qu'il faut un niveau de preuve scientifique avant de vous avancer des arguments. C'est-à-dire que les preuves scientifiques, on les a grâce à des études cliniques, des essais, randomisé avec des patients qu'on va suivre. Et donc, comme niveau de preuve, ce qu'on va appeler grade A, donc le plus sûr pour nous, ce qu'on peut vous avancer aujourd'hui grâce à une étude qui s'appelle la DPP, c'est que la modification du modèle de vie pour perdre du poids, c'est-à-dire rien que 7% du poids du corps, avoir une activité physique régulière environ 150 minutes par semaine, et réduire l'apport calorique, notamment réduire l'apport en graisse, permet de diminuer l'incidence et permet de diminuer le risque de diabète. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort et probant. C'est vraiment, s'il y a quelque chose à faire, c'est réduire l'apport calorique et notamment l'apport de graisse. Ensuite, dans des recommandations un petit peu moindres, juste pour revenir, il y a l'apport de fibres. Je reviendrai un petit peu plus après. Et l'apport modéré en alcool, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, l'apport en lipides, c'est-à-dire l'apport en graisse. Donc, le facteur de reconnu, c'est l'alimentation riche en graisse. Contrairement à ce qu'on pourrait croire à chaque fois, enfin, souvent on entend à la consultation, j'ai du diabète, mais je ne mange pas de sucre. Et finalement, ce n'est pas uniquement le sucre, c'est aussi les graisses. Les graisses animales, on sait qu'elles sont néfastes. Et celles qui sont végétales, elles sont protectrices, surtout celles qu'on appelle les acides gras polyinsaturés. Donc, ce qu'il faut, c'est réduire surtout les graisses saturées, celles qui sont les plus néfastes. Et les recommandations actuelles, c'est moins de 10% des apports énergétiques totaux. Donc ça veut dire savoir décrypter les étiquettes alimentaires aussi, un petit peu, pour ne pas se méprendre un peu sur les aliments qu'on consomme quand on fait nos courses au supermarché. Donc, savoir les repérer, ces aliments gras. Donc, aussi, après, c'est qu'est-ce qu'on fait des protéines, viande et produits laitiers. Donc, ce qu'on sait, c'est que le facteur de risque, c'est consommer de la viande transformée, donc c'est-à-dire élaborée dans des plats industriels, plus de 5 fois par semaine comparé à moins d'une fois par mois, augmente le risque de diabète. Alors, notamment pour la petite histoire, c'est surtout le bacon et les hot dogs qui augmentent le risque de diabète. Donc, attention si vous consommez ce genre de produits finis. Maintenant, on va parler enfin des sucres. Donc, il y a une notion importante dans les glucides, c'est qu'ils ne sont pas tous finalement comparables. Il y en a qui font augmenter le sucre dans le sang, mais de manière différente. Le jus de fruits industrialisé, comparativement au pain, aux céréales, ne va pas avoir ce qu'on appelle le même index glycémique. Les index glycémiques, donc, c'est la capacité d'un aliment à faire monter le sucre dans le sang. Plus l'index glycémique est fort, plus votre glycémie va avoir tendance à monter. Donc tout ce qui va être sucre ajouté, bonbons, pâtisserie, sucrerie, tout ce qui va être à charge glycémique élevée, augmente le risque de diabète. D'accord ? Et donc, voilà, il vaut mieux privilégier ce qu'on appelle les aliments à index glycémique bas, et notamment les céréales complètes, hein, qui sont à privilégier. Les fibres maintenant. Donc, les fibres, où est-ce qu'on les trouve ? Dans les légumes, dans les légumineuses, qui sont souvent oubliées, hein, et dans les céréales complètes. Il faudra en consommer environ 30 grammes par jour. Donc ça, c'est aussi important, parce que augmenter la consommation de fibres, ça permet de diminuer la satiété, c'est-à-dire l'envie de manger, et ça régule aussi le taux de sucre dans le sang. D'accord ? Donc, en résumé, ce qu'il faudrait privilégier, puisqu'il y a des aliments à privilégier, comme vous l'avez vu, mais il y a aussi ce qu'on appelle souvent, vous entendez parler dans les médias, du régime méditerranéen, c'est-à-dire les céréales complètes, l'huile d'olive, les fruits, les légumes, les légumineuses. Et ça, c'est à privilégier par rapport à ce qu'on appelle le régime western. Régime western, hot dog, bacon, soda, sucrerie, pâtisserie, ça, c'est banni, à bannir de notre alimentation si on veut éviter de faire du diabète. Voilà pour la présentation.
Alors, on va reprendre maintenant le quiz ensemble, d'accord ? Avec Brimbilla, qui va vous donner les réponses. Alors, la première question, c'était « Manger sucré rend diabétique ». Qui a répondu « Vrai ?» Vous levez la main. Qui a répondu « Faux ?» Ah, il y a un peu plus de « Faux ». La réponse ?
Donc, vous avez raison, c'est totalement faux. Maintenant, vous l'avez compris, il n'y a pas de lien en fait, de cause à effet entre la consommation, la quantité de sucre consommée quotidienne et la survenue du diabète. Les facteurs, maintenant, vous les connaissez. Les facteurs favorisants, ça va être facteurs familiaux et facteurs environnementaux, à savoir une alimentation déséquilibrée, une activité physique insuffisante et puis le surpoids, la surcharge pondérale.
Alors, on va vous distribuer tout à l'heure les réponses. On va attendre un tout petit peu. On va continuer à jouer ensemble. On ne peut pas prévenir l'apparition d'un diabète. Qui a répondu vrai ? Qui a répondu faux ? Qui n'a rien répondu ? Personne. La réponse ?
Alors, c'est vrai et faux. Ah. Selon le diabète que l'on considère. Là, ce soir, c'est vrai qu'on a ciblé diabète de type 2, diabète de type 1. On peut, à l'heure actuelle, rien faire pour prévenir la survenue du diabète de type 1. Par contre, on va se concentrer sur le diabète de type 2, puisque c'est le sujet de ce soir. On peut faire quelque chose. Maintenant, vous l'avez compris, l'activité physique permet de prévenir, est un point important pour prévenir le risque de diabète. L'activité physique peut permettre de conserver un poids stable et évidemment une alimentation équilibrée en lien effectivement avec les facteurs environnementaux.
Question 3, les glucides sont des sucres? Qui a répondu oui? Non? Réponse
oui. Juste un petit mot. Si vous souhaitez qu'on s'arrête à chaque question pour discuter un petit peu plus une fois qu'on vous a donné la réponse, il n'y a pas de problème. On peut le faire aussi. Hein. C'est comme vous voulez. Ou sinon, on revient sur certaines notions après. C'est comme vous voulez. Donc, on...
Alors, attendez. Alors, si on choisissait... Attendez. Si on choisit cette formule, il faut que je vienne vers vous. Donc, c'est pour ça qu'on le fait après, en général. Mais on va le faire tout de suite. Parce qu'il faut que vos questions soient dans le micro pour que puissent être enregistrées pour le site Internet. C'est pour ça.
Alors, je vous laisse. Excusez-moi.
Oui, la question 2 n'est pas complète, tout simplement. Voilà d'où vient l'erreur pour certaines personnes.
C'est-à-dire ?
Si, tout simplement.
C'est-à-dire
parce qu'on n'a pas précisé
peut-on prévenir
de type 2 ou de diabète de type 1 dans l'énoncé.
De type 1, de type 2.
Oui.
Voilà.
Ah oui, c'est parce que là, d'accord. Voilà, vous avez raison en plus.
Effectivement.
Donc les glucides sont des sucres, vrai ou faux? Troisième question.
Donc les glucides effectivement sont des sucres. Les glucides, ça va être le terme un petit peu scientifique. Les sucres. Le problème, souvent, il y a un amalgame qui est fait. Qu'est-ce qu'on définit comme étant un sucre? Donc, pour pas qu'il y ait d'amalgame, de confusion, nous, professionnels de santé, on va parler en termes de glucides, sachant qu'il existe différentes catégories de glucides. Des glucides simples, qui sont digérés rapidement, les glucides complexes, qui sont digérés plus lentement, et puis les polyols. Donc, dans les glucides simples, vous reconnaîtrez les fruits, les légumes verts, le lait, les laitages. Et puis le sucre ajouté dans les différentes préparations. Dans les glucides complexes, on va retrouver les féculents, les produits céréaliers, les légumineuses, les pommes de terre, le pain, etc. Voilà.
Ok. Quatrième question. Le corps a besoin de glucides pour son énergie. Qui a répondu vrai? C'est unanime. Qui a répondu faux? La réponse?
Donc c'est évidemment vrai, le corps a besoin de glucides pour son énergie. Ça va être le carburant principal en fait, du corps. On a besoin au moins de 50% d'énergie sous forme de glucides. Hein, donc au moins la moitié des apports quotidiens doivent être sous forme de glucides. Glucides simples et glucides complexes, évidemment.
La question 5. Les glucides fournissent plus de calories que les lipides. Vrai? Qui a dit vrai? Faux? Ah, c'est du kiff-kiff, là. La réponse?
Alors, en fait, les glucides ne fournissent pas plus de calories. Un gramme de glucides apporte 4 calories. Alors, il y a une erreur hein, sur le... Je vous laisse corriger, le soin de corriger sur le diaporama. Et un gramme de lipides apporte 9 calories, donc c'est plus du double. Donc vous voyez bien la différence. C'est pour ça qu'en termes de prévention de survenue du diabète de type 2, on parle beaucoup des matières grasses, puisque effectivement, comme c'est très calorique, ça peut favoriser quand même la prise de poids assez facilement.
La question 6. Il y a autant de glucides dans 100 grammes de pain blanc que dans 100 grammes de pain complet. Qui a répondu vrai? Faux? On a un petit peu plus de faux. Et la réponse?
Pourquoi? On verra ça après. En fait, c'est vrai, il y a autant de glucides dans le pain blanc que dans le pain complet. Ce qui va changer, c'est l'apport en fibres. Est-ce qu'on a laissé le son ou pas, finalement, dans la farine? Le pain blanc correspond à de la farine raffinée. On a enlevé le son, donc les fibres, notamment. L'amidon, on n'y a pas touché. Donc l'amidon correspond au sucre du pain blanc. Et dans le pain complet, l'amidon est tel quel. Donc c'est exactement la même chose. Voilà.
On reviendra dessus, bien sûr, sur le pain tout à l'heure, je pense, une fois qu'on aura fini le quiz. La septième question, c'est la question qu'on se pose tous. Est-ce que le pain fait grossir? Qui a répondu vrai? Faux. Ah, un peu plus de faux. C'est faux.
Alors, dans l'absolu, il n'y a pas d'aliment qui fasse grossir, il n'y a pas d'aliment qui fasse maigrir non plus. Tout dépend de la quantité. Et est-ce qu'on mange à sa faim? Est-ce qu'on mange par rapport à ses dépenses énergétiques? Donc en soi, le pain, non, ne fait pas grossir. Et une fois encore, ça fait partie des sources de glucides dont le corps a besoin pour, comme source de carburant.
Huitième question. Les pommes sont les fruits les plus pauvres en glucides. Vrai? Faux? Un peu plus de vrai.
Alors, ce ne sont pas les fruits les plus pauvres en glucides. Ils sont dans la moyenne, à hauteur de 12%. Après, les fruits, on va retrouver effectivement des extrêmes avec des fruits très peu sucrés, des fruits plus sucrés. Donc, au niveau des fruits les moins sucrés, qui apportent en moyenne 7% de glucides, on va retrouver les baies acidulées comme les fraises, les framboises, le melon, la pastèque. Dans les fruits les plus sucrés, je pense que peut-être vous les repérez déjà, à hauteur de 15%, vous avez les figues, le raisin, les cerises, les dattes. Donc il n'y a pas forcément une grande différence entre ces fruits-là et la moyenne, finalement. Il y a une différence un peu plus significative avec la banane qui apporte qui apporte 20% de glucides. Et puis, évidemment, les fruits secs, comme ils sont déshydratés, il va y avoir une concentration en glucides. Et donc, forcément, il y a plus de glucides.
Neuvième question. Les jus de fruits sans sucre ajouté n'apportent pas de glucides. Vrai? Faux. Grande majorité de faux.
Eh ben c'est vrai, c'est faux. Donc en fait, le terme sans sucre ajouté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sucre, c'est qu'on n'a pas ajouté du sucre en plus de celui présent dans le fruit. C'est-à-dire que quand on presse un jus de fruit, ben, les glucides sont là, restent là.
Les légumes verts, dixième question, apportent des glucides. Les légumes verts apportent des glucides. Vrai? Faux. 50-50. On peut appeler un ami?
Je ne sais pas si on avait prévu ça, mais bon. Les légumes verts, effectivement, apportent des glucides en moindre quantité par rapport aux fruits. En moyenne, ça apporte 5% de glucides, qu'on pensera peut-être probablement un peu plus négligeable, effectivement, puisque, étant donné que c'est riche en eau, riche en fibres, et que ça confère une satiété intéressante pour réguler peut-être l'apport calorique au cours du repas. Voilà.
Alors moi, j'ai hâte d'avoir la réponse à la question numéro 11 parce que j'étais incapable d'y répondre. Les petits pois sont des légumes verts. Qui a dit vrai? Moi, j'avais dit faux. Qui a dit faux? La réponse?
Tout le monde a raison. Ah. En fait... Non, c'est vrai, c'est ni vrai ni faux. En fait, les petits pois, on peut éventuellement les considérer comme des légumes verts, mais faisant partie des plus sucrés. Enfin, ça va être l'exception au niveau des légumes verts. Ça apporte 10% de glucides, comparativement aux féculents qui apportent 20% de glucides. Donc, c'est quand même pas comparable à des féculents. C'est moitié moins de glucides. Il faudrait 400 grammes de petits pois pour avoir un équivalent en glucides d'une assiette de féculents. Donc, voilà, il faut y aller pour les manger, les 400 grammes de petits pois. Donc, a priori, nous, on les considère comme plutôt des légumes verts. Et étant donné qu'on recommande de varier les différents types d'aliments au sein de chaque famille, finalement, si on ne mange pas des petits pois tous les jours, c'est absolument pas gênant en soi.
Le lait contient naturellement des glucides. Question numéro 12. Qui a dit vrai? Qui a dit faux? en plus de vrai.
Donc effectivement, le lait contient du sucre, que l'on appelle le lactose, qui est naturellement présent dans le lait, et à concentration de 5%.
Question numéro 13. Le sucre roux que l'on met dans le rhum... Ah non, c'est pas ça. Le sucre roux est meilleur que le sucre blanc. Qui a dit vrai ? Qui a dit faux ? Ah, on est pareil, on est 50-50.
Alors c'est vrai que là, on aurait pu préciser d'un point de vue nutritionnel ou gustatif, parce que c'est vrai que là, la question peut être ambiguë. D'un point de vue nutritionnel, en fait, il n'y a pas de différence, enfin, il n'y a pas plus d'intérêt à consommer du sucre roux. Ce qui va être différent, c'est la couleur, le fait qu'on ait épuré le sucre blanc, qu'on ait enlevé certains colorants, certains un petit peu de vitamines, de minéraux, mais qui sont présents en quantité vraiment non significative dans le sucre roux. Donc, on n'a pas de recommandation particulière, c'est vraiment une histoire de goût.
Question 14. Le fructose est aussi calorique que le saccharose. Vrai ? Faux ? Il y en a qui n'ont pas répondu ? Ouais. La réponse ?
Donc effectivement, c'est sensiblement pareil, donc c'est vrai. Le saccharose, c'est le glucide en fait, que l'on appelle souvent par défaut le sucre de table, qui peut être sous forme de poudre, de carré de sucre, etc. etc. Le fructose, tout à l'heure on a vu que c'était le sucre naturellement présent dans les fruits. Après, on retrouve dans le rayon édulcorant effectivement du fructose en poudre pour sucrer les desserts et autres. Il y a un petit peu moins d'effet sur la glycémie, donc bon, après c'est pas, ça reste un sucre et à considérer comme du sucre.
Question numéro 15. Dans un litre de soda, il y a l'équivalent de 24 morceaux de sucre. Vrai ? Faux ? C'est du vrai, apparemment.
Donc oui, on considère que dans un litre de soda, il y a à peu près 120 grammes de glucides. Si on sait qu'un morceau de sucre pèse 5 grammes, on peut faire après la correspondance significative. Là, vous avez un petit visuel pour comparer un peu la teneur en glucides dans les jus de fruits, boissons à l'orange et puis boissons type soda. Donc là, visuellement, ça vous permet d'avoir un comparatif intéressant. Donc il y a des glucides un peu partout, ça on le remarque. Donc, après, il n'y a pas forcément une si grande différence que ça entre le jus de fruits et le soda, comme vous pouvez le voir.
Les sodas light contiennent des glucides. Vrai ? Faux ? Réponse ? Faux. Bravo, monsieur.
Donc c'est faux. On considère en fait que, on utilise des édulcorants de synthèse qui ne correspondent pas à des glucides et qui ont un niveau énergétique quasiment nul.
Question 17. Les bonbons et chewing-gums sans sucre n'apportent pas de glucides. Vrai ? Faux ? Grosse majorité de faux.
Il y a des connaisseurs dans la salle.
Ouais.
Donc effectivement, c'est faux. Souvent, dans les confiseries allégées, on va retrouver une catégorie de glucides qu'on a cité initialement, les polyols, qui sont moins caloriques, mais qui ont quand même une certaine charge calorique, qui ont une moindre action du coup sur la glycémie. Après, la remarque que l'on peut faire, c'est que... en excès, ça va apporter des calories, donc ça peut participer à faire prendre du poids. Et surtout, ça peut entraîner des troubles digestifs, parce qu'il y a un effet laxatif à partir d'un certain seuil.
Question 18. L'huile d'olive est l'huile la moins grasse. Qui a répondu vrai ? Qui a répondu faux ? C'est pareil, c'est mitigé au niveau des réponses.
Alors c'est faux, ce qui va changer en fait au niveau des huiles, outre la couleur, l'aspect, enfin la viscosité peut-être, le goût et la valeur, enfin la teneur en acide gras, ça apporte 100% de lipides, donc que ce soit de l'huile d'olive, de l'huile de noix, etc., etc., c'est exactement la même chose. Après, donc, je vous parlais de variation en fait entre la teneur en acide gras. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu les acides gras au niveau des matières grasses. On distingue les acides gras monoinsaturés, polyinsaturés. Globalement, on peut dire que les acides gras monoinsaturés qu'on retrouve notamment dans l'huile d'olive vont avoir un effet préventif pour diminuer ce que l'on considère comme étant le mauvais cholestérol et augmenter ce que l'on considère comme étant le bon cholestérol. Et les acides gras polyinsaturés, notamment les acides gras oméga 3, ont un effet préventif concernant les maladies cardiovasculaires. Voilà pour le détail.
Question 19. La margarine au tournesol est moins grasse que le beurre. Qui pense que c'est vrai ? Faux ? On a un peu plus de faux.
C'est effectivement, faux. C'est faux. C'est la même chose. Ce qui va changer, en fait, c'est l'origine de la matière grasse. Quand on est sur du beurre, on est sur une origine animale. Quand on est sur de la margarine, en général, on est plutôt sur du végétal. Après, il existe quelques margarines mixtes. On peut trouver un mélange d'animal et de végétal. Mais effectivement, c'est vraiment une histoire de différence d'origine.
Question numéro 20. Les fromages ne contiennent pas de glucides. Vrai ? Faux ? Pareil, 50-50.
Donc effectivement, les fromages ne contiennent pas de glucides. C'est en regard du procédé de fabrication du fromage. On a des étapes où petit à petit, le lactose se perd. Égouttage, affinage, puis fermentation. Le lactose va être transformé en acide lactique. Donc on ne peut pas dire qu'il reste du lactose dans les fromages. On va retrouver des traces de lactose.
Question 21. Le vin rouge contient des glucides. Vrai ? Il y a des connaisseurs. Faux ? Réponse ?
Donc c'est faux. En fait, c'est encore une histoire de fermentation. On va avoir... Bon, on en rediscutera après si vous voulez.
Oui, on va en discuter après.
Il y a en fait une fermentation...
Autour d'un verre.
Oui, tant qu'à faire. Une fermentation des glucides qui vont se transformer.
Je suis pas convaincu.
On va y revenir après si vous voulez bien, monsieur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. N'ayez pas de souci.
Là, on est sur le vin rouge. Donc, les glucides vont fermenter, se transformer en alcool. Après, effectivement, de façon globale, on va distinguer des boissons alcoolisées qui vont apporter des glucides et d'autres qui ne vont pas apporter de glucides. Donc, dans les non-glucidiques, on va retrouver les alcools forts, le vin rouge, le vin blanc sec, le vin rosé, les champagnes bruts. Et dans les boissons alcoolisées qui contiennent encore du sucre, on va retrouver les vins doux, le champagne doux, la bière, le cidre, la liqueur et la crème.
D'accord. Et dernière question, et ensuite on aura vos questions à vous, bien sûr. Une banane équivaut à un steak. Qui a répondu vrai ? Qui a répondu faux ? Alors, plus de faux que de vrai ?
Alors, c'est faux, on n'est pas sur la même famille d'aliments, tout simplement. Les bananes appartiennent à la famille des fruits et le steak appartient à la famille des viandes. Donc, ce n'est pas les mêmes spécificités nutritionnelles. Les viandes vont spécifiquement apporter des protéines, du fer, des matières grasses en plus ou moins grande quantité, alors que la banane, qui fait partie de la catégorie des fruits, comme vous le savez maintenant, apporte essentiellement des glucides, vitamines, minéraux, fibres. Donc on ne peut pas dire que ce soit équivalent.
Parfait. Est-ce que un de nos intervenants souhaite rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions ? Non, tout va bien ? Alors, on va poser les questions, on va arriver aux questions. Donc, vous levez la main, vous ne parlez pas fort et vous ne criez pas, ça ne sert à rien du tout. Je viens vers vous et je vous tends le micro. D'accord ? Qui a des questions ? Allez, j'arrive.
Alors, dans le vin, vous dites qu'il n'y a pas de sucre. Je ne suis pas convaincu parce que dans la vinification, on met toujours du sucre dans les mélanges des vins. Voilà.
Alors, je parlais pré- précisément du vin rouge et j'expliquais que normalement pendant la transformation le sucre subit une fermentation et se transforme en alcool. Après, c'est vrai que je ne suis pas une experte vigneronne dans la fabrication du vin, mais là on est vraiment sur le vin rouge.
C'est la quantité dans un verre de vin en fait. C'est la quantité dans un verre de vin, l'histoire du sucre.
Peu importe la quantité, c'est dans la vinification que vous en buviez un verre ou que vous en buviez une bouteille, faites attention, mais dans la vinification, il y a toujours un apport de sucre, quelle que soit la forme du sucre.
Vous voulez dire peut-être après fermentation, il y a un ajout de sucre, d'accord.
Attendez, je vais tenir. Alors, s'il vous plaît, on ne parle pas, s'il vous plaît, le micro. Donc, vous me demandez la parole, merci.
En fait, effectivement, il y a certains vins qui contiennent des glucides en plus de l'alcool, pas les vins rouges, parce que dans le vin rouge, tout le sucre à fermenter est devenu de l'alcool. Par contre, effectivement, dans les vins blancs, il y a deux types différents. Il y a les vins dans lesquels on arrête la fermentation avant la fin, le sucre n'ayant pas totalement fermenté, il reste que des glucides. Et puis il y a certains vins où, après la fermentation, effectivement, on rajoute du sucre. Mais ça ne concerne pas le vin rouge, monsieur Babin. Dans le vin rouge.
Donc il n'y a pas de sucre dans le vin rouge. Voilà. On fera, ou sauf quand c'est une mauvaise année, me dit-on. Mais ça, c'est autre chose. On fera un pôle info santé sur le vin un jour. Je pense qu'il faut. Qui a une question ou quelque chose à dire? Alors. Allez-y, madame.
D'accord, merci. On parle toujours d'une demi-heure à une heure d'activité physique. C'est comme quand on parle, par exemple, qu'il faut boire, je crois que c'est 1,5 litre d'eau par jour. Mais au fond, est-ce que ça ne dépend pas non plus de la personne? Parce que est-ce que moi, j'ai un besoin d'activité physique que, je ne sais pas, une autre personne? Chaque personne, quelque part par là, est unique et on n'a pas forcément tous les mêmes besoins, que ce soit en apport d'eau ou en apport d'activité physique, quoi.
Effectivement, après, ce qu'on entend par activité physique, c'est surtout de ne pas rester sédentaire. C'est-à-dire qu'on remarque que quelqu'un qui sollicite peu le travail musculaire, le travail cardiovasculaire, peut-être qu'il sera plus sujet à la prise de poids et aux pathologies chroniques, de manière globale. Après, on ne demande pas aux personnes d'aller courir des marathons tous les 4 matins. Moi, je fais bien la distinction entre l'activité physique et l'activité sportive, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'activité physique, c'est le fait d'être dans le mouvement, si vous voulez. Donc le fait de marcher pour se rendre à un lieu, ça peut être...
Même si on reste sur le terme d'activité physique, moi, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais j'ai un organisme qui élimine très bien, je n'ai pas forcément les mêmes besoins d'activité physique que mon voisin qui a un organisme qui élimine moins bien, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc quand on dit ça, j'ai l'impression que c'est un peu un phénomène de mode ou de... mais qui, au fond, ne veut absolument rien dire.
On a tous à peu près un métabolisme de base qui est identique. Qu'on soit grand, petit, à partir du moment où on est adulte, on a à peu près tous les mêmes dépenses de base énergétique. Et ce qu'il faut, c'est arriver à avoir régulièrement, sans hyper-consommation, mais brûler son énergie de manière régulière. Et ça, quel que soit l'individu, qu'il soit petit, grand, gros ou petit, quel que soit son morphotype, ça, c'est pareil pour tout le monde. C'est pas une question d'individu, c'est une question de métabolisme de base et d'augmenter le métabolisme qu'on a pour respirer, pour que son cœur batte, pour que sa digestion se fasse. On a tous le même métabolisme de base. Et c'est juste augmenter cette consommation de manière régulière, sans excès. Donc c'est pour ça que le marathon, c'est pas forcément indiqué, mais de la marche à pied, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, une demi-heure, c'est parfait.
Alors, compléter ce que vient de dire le docteur Delobouge, s'agissant de la prévention du diabète, tout le monde n'est pas égal. Ça rejoint ce que vous dites, madame. On parle de la prévention du diabète aujourd'hui. Et tout le monde n'est pas égal quant au risque de devenir diabétique. Le docteur Vincent Tassin vous a expliqué qu'il y a un certain nombre de mesures hygiéno-diététiques, dont l'activité physique, qui sont en mesure... d'éviter à une personne de devenir diabétique. Donc ça a été prouvé scientifiquement. Mais quand on veut prouver scientifiquement quelque chose, il faut effectuer votre étude chez des personnes qu'on a sélectionnées comme étant à risque. Or, les personnes chez lesquelles, donc l'étude américaine qui a été évoquée, il y a une étude comparable sur moins de personnes, mais tout aussi bien faite, qui a été faite en Finlande. Ces études, elles n'ont pas été faites chez n'importe qui. Et elles n'ont pas été faites chez des personnes qui ont votre silhouette. Hein. Elles ont été faites chez des personnes qui avaient au départ clairement un excès de poids, voire une obésité, et même chez des personnes dont le taux de sucre dans le sang n'était pas diabétique, mais n'est pas strictement normal. Donc il y a des preuves qui ont été faites pour la prévention du diabète, mais ces preuves s'appliquent aux personnes qui sont à risque de devenir diabétiques, et ça vous pouvez le mesurer justement dans le document avec 8 questions que vous avez. D'accord ? Donc vous, madame, si vous ne faites pas de... je veux dire, 3 fois une demi-heure de marche à pied par semaine, je pense que ça ne changera pas grand-chose pour vous quant à votre risque de devenir diabétique, parce que je pense que vous êtes très peu à risque de devenir diabétique. En revanche, vous avez d'autres personnes qui ont un risque plus important que vous, chez lesquelles cette mesure préventive sera utile.
Merci. Madame ?
Je voudrais savoir comment comprendre une étiquette où on lit hydrate de carbone tant, dont sucre tant. Et deuxième question, il me semble que le lait de chèvre est moins sucré que le lait de vache. Est-ce vrai?
Alors, rappelez-moi la première question par rapport à l'étiquette.
Hydrate de carbone dont sucre. Et est-ce qu'on dit par exemple hydrate de carbone 15, dont sucre 12 Est-ce que l'hydrate de carbone, ce n'est pas des sucres?
Alors, hydrate de carbone, ça va être des glucides. Et dans ces glucides, on va avoir des glucides simples, le sucre. Donc, ça peut être essentiellement du saccharose. Donc, on détaille effectivement le type de sucre. Hein, initialement, oui, je vous avais...
Il y a différents types de sucre. Déjà, rien que le fait de l'orthographe de sucre. Quand vous voyez sucre sans S... ça veut dire que c'est obligatoirement du saccharose. Si vous voyez sucre avec un S, ça peut être du saccharose, ça peut être du fructose. D'accord ? Donc déjà, c'est tout le problème de la lecture des étiquettes. Ça peut être des polyols aussi. Enfin bon, donc effectivement, quand une étiquette vous indique sucre dont saccharose, ça veut dire qu'il y a d'autres sucres que le saccharose.
Donc ça, c'était la première question. Vous en aviez une deuxième, je crois.
C'était pour savoir si le lait de chèvre était moins sucré que le lait de vache.
J'ai pas la teneur comme ça là en tête. Je sais pas si quelqu'un l'a. Après, in fine, c'est pour quel intérêt de savoir cette nuance?
Pour avoir un total de moins de sucre dans la journée.
Bon, après, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie pour... puisque tout à l'heure, on disait que ce sont les lipides en fait, qu'on cherche à surveiller, hein, qui apportent tout de suite beaucoup de calories. Donc après, comptabiliser tous les apports, etc., etc. au quotidien, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, parce qu'après, ça peut devenir obsessionnel. Et finalement, il faut faire un peu confiance à son corps, à ses sensations de faim. Est-ce que je mange à ma faim? Est-ce que je ne mange pas au-delà de ma faim? Et savoir peut-être à un moment donné poser la fourchette quand on n'a plus faim et pas chercher à finir l'assiette, etc., etc. L'alimentation, c'est quelque chose de global. Si on commence à éplucher tout en détail, etc., etc., je pense qu'on se complique beaucoup l'existence pour finalement pas des résultats palpables. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais enfin, c'est mon point de vue en tout cas.
Alors, en termes de teneur en sucre, exactement, je ne saurais pas trop vous dire, mais d'une façon générale, le lait de chèvre est plus digeste que le lait de vache.
D'autres questions ? Vous pouvez aussi réagir par rapport au questionnaire, au quiz de tout à l'heure. Oui, j'arrive.
Moi, je voudrais savoir par rapport au questionnaire, là, je vois qu'il y a une question qui est, vous a-t-on déjà prescrit des médicaments contre l'hypertension ? Donc, il y a un lien entre l'hypertension et le diabète ou...
Alors, le lien entre l'hypertension et le diabète, il est dans la prédisposition à devenir diabétique. Tout à l'heure, je vous ai montré des figures, des photographies avec la personne qui a de l'embonpoint au niveau du ventre, le tour de taille. D'accord ? Cet embonpoint, donc le profil pomme en quelque sorte, s'inscrit dans ce qu'on appelle en médecine le syndrome métabolique. D'accord ? Le syndrome métabolique, c'est une personne qui a un excès de poids, pas forcément une obésité, mais au niveau du ventre. Mais il y a d'autres éléments qui rentrent dans la définition du syndrome métabolique, dont la pression artérielle. D'accord ? Et une personne qui a un tour de taille supérieur au chiffre que j'ai donné tout à l'heure, 80 chez la femme et 92 chez l'homme, et qui a une hypertension artérielle, par conséquent chez laquelle on a prescrit antérieurement des médicaments pour la tension, est indiscutablement une personne qui a plus de risques de devenir diabétique dans le cadre du syndrome métabolique, qui est justement l'antichambre du diabète. Et la photographie que je vous ai montrée tout à l'heure, où il y avait les 10 millions de personnes à gauche qui ont un syndrome métabolique qui risque de devenir diabétique, eh bien, ça inclut des personnes qui ont à la fois un tour de taille augmenté et une hypertension artérielle.
Attendez. J'arrive.
Mais on peut très bien avoir de l'hypertension sans avoir une constitution forte.
On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais quand vous faites un score de risque, vous cochez un certain nombre de choses. D'accord ? Si dans le questionnaire, vous cochez « on m'a prescrit un médicament antihypertenseur ». D'accord ? Mais que vous ne cochez pas, j'ai un tour de taille de temps, j'ai un IMC de temps, ma famille, ceci, cela, vous arriverez à un score faible, incluant l'hypertension artérielle, donc un risque faible de devenir diabétique. Si par contre, dans votre questionnaire, vous avez coché tel antécédent familial, tel tour de taille, tel poids, plus un médicament antihypertenseur, ça va renforcer votre score et ça va participer à un score plus élevé.
Dans le questionnaire tout à l'heure pour calculer si on avait des risques d'avoir du diabète, il y avait une différence de points entre la fonction par rapport à.
Enfin, j'ai l'impression que, enfin, en d'autres termes, si dans le questionnaire vous ne cochez que on m'a prescrit un traitement antihypertenseur et puis que le reste est dans la partie basse, vous avez un très faible score et ce seul critère ne fait pas de vous une personne à haut risque de devenir diabétique.
Donc je reprends ma question. Dans le questionnaire, il y avait différents points en fonction de la, par rapport à l'hérédité, à la génétique. Il y avait je crois que les parents c'était 2 points, et si c'était la tante, etc., c'était 5 points. Comment vous expliquez ces différences de points en fait ?
Parce que ce sont ce qu'on appelle les apparentés au premier degré, et les apparentés à un degré plus lointain. Donc dès l'instant où l'antécédent de diabète porte sur un apparenté au premier degré, c'est-à-dire votre frère, votre père ou votre mère ou votre fils, ça fait un risque plus important que s'il s'agit de votre grand-mère ou de votre tante paternelle.
C'était le contraire dans le papier, c'est pour ça que je vous posais la question.
Oui,
c'est pour ça que je vous posais la question en fait. C'était 5 points, je crois, de tête sur la tante et les oncles, et c'était 2 points pour les familles, ou 3 points pour les proches. C'est pour ça que je vous posais la question.
C'est une erreur, ça. C'est une erreur.
Donc c'est une erreur. Donc j'ai bien fait de poser la question.
Oui, non, mais vous avez d'accord. Bon, mais bravo pour votre sens de l'observation.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça nous arrange pas forcément. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, j'arrive. Moi, j'aurais fait mes 30 minutes de sport aujourd'hui, en tout cas. Vous, je ne sais pas, mais moi, oui.
Les boissons light. J'aimerais avoir votre avis sur les boissons light.
Alors, à quel niveau ?
Eh bien, sur l'apport de sucre.
Alors, tout à l'heure, on a vu que ça correspondait, enfin, light, ça correspondait à des édulcorants. Donc, il n'y a pas de valeur calorique. Au niveau de l'impact sur la glycémie, il n'y a pas d'impact non plus sur la glycémie. Après, on est sur, avec les édulcorants, on est quand même sur des additifs. En termes d'études, je ne sais pas si c'est réellement tranché concernant bien ou pas bien. On ne peut pas répondre oui ou non. Enfin, moi, je serais tentée de dire que c'est à consommer avec modération. C'est-à-dire que si on cherche à éviter de prendre du poids, ponctuellement, ça peut être quelque chose d'intéressant puisqu'on sait que ça apporte pas de calories. Après, c'est pas un produit qu'on peut recommander puisque ça va pas apporter de vitamines, pas de minéraux, pas de protéines, enfin pas de choses intéressantes et essentielles au corps.
Moi, je rajouterais juste une chose. Après les produits light, les boissons light, le problème c'est que ça n'empêche pas le goût sucré et l'appétence au goût sucré. Et donc, je pense quand on fait attention à ce qu'on veut boire et qu'on fait attention à ce qu'on veut manger, ça passe aussi par le fait de ne pas vouloir manger et consommer trop sucré. Et les boissons light nous cachent ce goût, nous continuent à nous inciter à boire sucré, ce qui n'est pas forcément très conseillé.
Merci. Tout dépend ce à quoi vous faites référence dans votre question. Est-ce qu'il s'agit de la prévention du diabète ou est-ce qu'il s'agit d'éviter de prendre du poids? Le vrai problème des boissons light, c'est que ça vous permet d'ingurgiter moins de calories pour le même volume si vous voulez absolument boire quelque chose qui a un goût orange-like. Donc c'est ça. Je vais vous donner un exemple qui me touche personnellement puisqu'il s'agit de ma mère. Bon, ma mère adore le jus d'orange. Bon, et elle en boit de façon compulsive. Bien. Eh bien, malheureusement, elle prend du poids. Bon, eh bien, maintenant, je lui conseille de boire, je lui achète des jus d'orange light, d'accord? Bon, parce que, bon, elle n'a pas de diabète, elle n'a pas de risque de diabète, mais bon, donc ça lui évite de prendre un peu plus de poids que si elle buvait le même volume sous forme de jus d'orange. Tout dépend ce que l'on souhaite. Puis alors après, il y a une autre question qui a été évoquée, c'est quand vous allez sur des boissons comme ça, 6 ml, etc., donc d'accord, il n'y a pas de sucre, mais quand vous regardez la composition, vous voyez qu'on rajoute des colorants, des additifs, des tout ça, donc après, on part sur un autre type de débat, c'est-à-dire pour ou sans les additifs, pour ou sans les colorants.
Allez-y.
Merci. Oui, je voulais vous poser une question au sujet des huiles. Est-ce qu'il vaut mieux prendre de l'huile à première pression à froid, ou vaut mieux prendre de l'huile, par exemple, Isio 4, où il y a plusieurs sortes d'huiles à l'intérieur, c'est-à-dire huile d'olive, huile de colza, huile d'arachide et tout ça?
Alors, d'un point de vue gustatif, je ne peux pas répondre, c'est très personnel. Après, d'un point de vue pratique, les mélanges d'huiles, si les personnes ne veulent pas s'embêter à acheter 3-4 sortes d'huile, on sait qu'il y a une variété d'acides gras essentiels qui sont intéressantes pour le corps. Donc après, tout dépend de quelles sont vos attentes. Il y a différents paramètres à considérer. En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut varier les graisses, les graisses végétales, pour couvrir les besoins d'acides gras essentiels.
D'un point de vue gustatif et nutritif, les huiles d'olive vierges de première pression sont indiscutablement les meilleures. Bon, sinon après, dans les huiles, comme ça a été très bien dit dans le questionnaire, toutes les huiles ont la même valeur calorique. L'huile, c'est l'aliment le plus gras de tous, 100%. Il n'y a pas d'autre, même le beurre, ça, c'est moins. Bon, donc après, tout dépend ce que l'on cherche à éviter. Si vous voulez limiter votre consommation d'huile par rapport à votre poids, pour ne pas prendre de poids, toutes les huiles sont égales, puisque l'huile, c'est quelle qu'elle soit, c'est 100% et c'est 9 calories par gramme. D'accord ? Si on distingue ensuite telle huile de telle autre, par exemple si on parle de l'huile d'olive ou si on parle de l'huile de colza ou si on parle de l'huile de soja, par exemple, c'est qu'après ces huiles sont plus ou moins riches en tel ou tel acide gras. Par exemple, l'huile d'olive, c'est un très bon exemple pour les acides gras monoinsaturés. L'huile de colza, l'huile de soja, ce sont des très bons exemples
pour les huiles polyinsaturées contenant ce qu'on appelle des oméga 3, c'est-à-dire la même chose que ce que vous trouvez dans le maquereau, dans le thon ou dans le saumon ou dans les sardines, ce sont des huiles qui sont bénéfiques pour la prévention cardiovasculaire, c'est-à-dire pour encrasser les artères. Mais à une même quantité d'huile de tournesol ou d'huile de soja ou d'huile d'olive, vous aurez les mêmes conséquences sur le poids, mais vous aurez des conséquences différentes sur votre taux de cholestérol et sur votre risque cardiovasculaire, qui sont deux problèmes distincts.
Très bien. D'autres questions ? A priori, on a fait le tour du sujet pour ce soir.
Je voulais faire juste peut-être un petit commentaire, parce que tout à l'heure, j'entendais la dame devant moi parler de l'alcool, que ça avait une incidence sur la glycémie, etc. Je voulais juste rappeler les consommations. Enfin, il n'est pas recommandé de boire des boissons alcoolisées, d'une part. Et d'un point de vue prévention cardiovasculaire, pour les femmes, il ne faut pas dépasser la dose de 2 verres de vin par jour, 3 verres de vin pour les hommes. Et d'un point de vue cancérologie, ce serait même 0 verre de vin. Voilà, je voulais juste resituer en fait ces recommandations. Ça me venait à l'esprit.
Je voulais revenir sur une petite notion tout à l'heure du pain qui fait grossir. Le pain qui fait grossir, donc on a dit que la réponse était fausse. Le pain fait grossir, c'est surtout ce qu'on mange avec le pain qui fait grossir. Hein. Tout le problème, il est là. Ce matin, j'ai vu en consultation un monsieur qui commence à avoir de l'embonpoint, dont le cholestérol est élevé, machin, etc., les triglycérides. Il mange, alors c'est un ouvrier agricole. Il mange au petit déjeuner, 9h du matin, après avoir pris un café noir avec un sucre à 6h du matin, il mange une baguette de pain. Au déjeuner, il mange un pain de livre. Le soir, au dîner, il mange une deuxième baguette. Bon, mais que mange-t-il avec tout ça? Eh bien, dès le matin à 9h, il mange de la charcuterie, 3 œufs et un fromage de ferme. Hein, bon, à midi, avec son pain de deux, il mange à nouveau de la charcuterie, il mange du steak frites, il mange du fromage et encore un yaourt fermier. Et puis le soir, même chose. Donc, le problème, il est là. C'est pas tellement le pain, c'est ce qu'on mange avec le pain. Bon, là, évidemment, je vous ai pris un exemple extrêmement caricatural, mais qui est vrai, que je n'ai pas inventé. Hein.
Et pour ceux qui mangent rapidement, qui mangent le midi, vous avez parlé des hot dogs et tout ça, mais tous ceux qui mangent des hamburgers, les pizzas, les sandwichs, etc., pas par rapport au poids, mais par rapport au diabète, etc., est-ce que ces produits sont sucrés ? Il y a souvent plein de choses sur les étiquettes, on a du mal. Alors quand on va dans un restaurant qui vend des hamburgers, on n'a pas forcément le détail sous la main. Comment on peut savoir tout ça en fait ?
Alors là, on est sur donc une alimentation type fast-food. En général, c'est plutôt gras et sucré, effectivement. Souvent, c'est une alimentation qui a une texture assez molle, qu'on mange assez rapidement. Et la sensation de faim n'a pas... La sensation de satiété n'apparaissant qu'au bout de 15 minutes. Si en 10 minutes, on a dévoré 3 hamburgers, 2 cornets de frites, etc., probablement qu'on aura mangé au-delà de ses besoins énergétiques, sauf qu'on n'aura pas eu le signal physiologique pour dire « Ah, j'arrête de manger ». Donc après, par rapport à la composition, c'était...
Non, c'était juste pour savoir si c'était... combien on peut en manger par semaine, éventuellement, si on est un peu obligé, quand on a une vie active et qu'on doit...
Sachant que c'est gras et sucré, il est recommandé d'éviter d'en consommer de façon régulière, en fait. À l'occasion, c'est pas gênant si après, effectivement, les repas suivants, on fait attention ou si on prévoit de faire une activité physique pour éventuellement augmenter les dépenses énergétiques. Après, il faut savoir que ce sont des aliments transformés. Donc, c'est vrai qu'en termes de recommandations, d'un point de vue global, il est déconseillé d'en consommer trop régulièrement, que ce soit par rapport à la prévention de survenue du diabète ou encore de cancer. C'est vrai que c'est pas conseillé.
Pour revenir juste un petit peu sur ce que vient de dire ma collègue. Donc, en fait, ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez manger rapide sans forcément manger des produits transformés type fast-food. C'est-à-dire que vous faire un sandwich que vous faites vous-même avec la composition que vous souhaitez, ce n'est pas délétère pour l'organisme. C'est-à-dire que si vous coupez un petit bout de pain, vous mettez une tranche de jambon et légèrement beurré, ce n'est pas ça qui va exposer et augmenter votre risque de diabète. Le problème, c'est toujours les aliments transformés, les produits industrialisés, les produits pour lesquels vous n'aurez pas, vous n'aurez pas connaissance de tout ce qui a été utilisé pour la fabrication de ceci.
Ouais, vaut mieux se faire sa salade soi-même que de l'acheter toute prête.
Exactement.
Une dernière question.
Oui, on nous dit que la graisse de canard est la meilleure pour la cuisine. Est-ce vrai ?
C'est une très bonne question.
J'ai pas entendu la fin de la question.
On nous dit que la graisse de canard est meilleure pour la cuisine et pour la santé. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, en termes de goût, une fois encore, c'est très personnel. Après, on va retrouver des graisses monoinsaturées. Donc, effectivement, comparativement à la graisse de bœuf ou la graisse de porc, d'un point de vue qualitatif, on est sur une graisse un petit peu moins... pas forcément néfaste en considérant l'ensemble des graisses animales, puisque le discours est le suivant, c'est que on va chercher à limiter quand même les graisses animales dans son alimentation en privilégiant plutôt les graisses végétales qui apportent des acides gras importants pour le corps.
La graisse de canard, effectivement, c'est riche en acides gras monoinsaturés, donc c'est des meilleurs acides gras pour la prévention cardiovasculaire. C'est un petit peu ce qu'on a dit pour les huiles tout à l'heure. Maintenant, après, quand vous mangez du canard, vous n'êtes pas obligé de manger le gras. C'est comme les volailles en général. Il faut les manger sans la peau. Si vous mangez que la viande, le muscle du canard, eh bien, ça sera beaucoup moins gras. Alors, ce qui est encore mieux, c'est dans... Mais bon, après, d'un point de vue... culinaire, gastronomique, c'est un peu discutable. Ce qui est encore mieux, c'est de mijoter votre canard et d'enlever la graisse avant. Parce que pendant la cuisson, la graisse pénètre le muscle et votre muscle est plus gras si vous l'avez fait cuire avec la peau que si vous le faites cuire sans. Bon. Mais bon, on ne mange pas du canard tous les jours.
Non. Merci beaucoup de vos interventions qui étaient très complètes. Merci pour le quiz aussi qui nous a permis d'apprendre plein de choses. Merci à l'organisation, au CHU, à l'Espace Mendès France, à la technique. N'oubliez pas de remplir la fiche d'évaluation, qui est importante. Vous la remettrez à nos hôtesses à la fin, en partant. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année aussi. On se retrouve l'année prochaine avec plein de sujets. Il y aura entre autres un sujet sur l'hypnose médicale. On parlera aussi pour le prochain rendez-vous le 11 février du traumatisme de la main, des traumatismes de la main. Le 11 février prochain. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup.
Voilà, moi, à titre personnel, je voudrais beaucoup remercier le docteur Dolobouge de nous avoir accompagnés autour de cette table, Aurélie Brimbilla, qui est une diététicienne du CHU, et puis Émilie Vincent-Tassin, qui est une endocrinologue de Poitiers et nutritionniste.